Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, tous les jours en direct de 15h à 16h. Alors vous le savez bien sûr, tous les jours pour vous chouchouter, pour vous informer, il est également à côté de moi dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui notre grand dossier du jour sera consacré à l'immunothérapie, une nouvelle voie thérapeutique proposée aux patients depuis maintenant quelques années. Mais en fait, savez-vous de quoi il s'agit précisément? Comment fonctionne ce type de médicament? Ont-ils moins d'effets secondaires? La recherche est très intense dans le domaine et peut-être bientôt de nouvelles localisations de cancer pourraient bénéficier de l'immunothérapie. Alors pour en parler, nous recevrons le professeur Fabrice Parlesi. Il est directeur médical de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous parlerons d'un bobo d'actualité, le rhume, et oui, tout nez qui coule n'est pas du Covid, heureusement. Alors comment reconnaître un simple rhume? Comment ça soigne d'ailleurs? Est-ce que ça soigne d'ailleurs ou est-ce que ça passe tout seul en rhume? On va voir ça avec le docteur Jimmy Mohamed. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de préjugés autour de la masturbation.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la première question, c'est celle de Mathias.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelais pour une petite question qui me turlupine depuis une petite semaine maintenant. J'ai la tête qui tourne le matin et surtout un petit peu la nausée. Et du coup, je me demandais si je n'étais pas en train de faire une crise d'hypoglycémie. Et puis d'ailleurs, à ce propos, justement, c'est quoi les vrais signes d'une crise d'hypoglycémie précisément? Et est-ce que ça peut être grave? Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. À bientôt.
Alors d'abord, une petite précision. Mathias, quand même, on n'est évidemment pas là pour faire de la consultation en direct. Ce n'est pas possible. Si vous allez mal, surtout, allez voir votre médecin traitant, évidemment. Mais Jimmy, on va dire sur le principe et dans un ordre, on va dire d'un point de vue général, avoir la tête qui tourne, des nausées, est-ce que ce sont des signes d'une crise d'hypoglycémie?
Oui, si vous êtes sur un terrain qui peut vous prédisposer à une hypoglycémie, d'une façon générale, l'hypoglycémie, c'est tout symptôme neurologique, est une crise d'hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que comme le cerveau manque de sucre, il va avoir des manifestations un peu bizarres.
Vous allez avoir la tête qui tourne un petit peu.
D'accord, mais ouais. Oui, mais ça commence par la faim. Vous avez ce creux de l'estomac, dites tiens, j'ai envie de manger. Puis
je dois être souvent en hypoglycémie, moi, alors.
Oui, ça, c'est un autre débat.
Même avec le Covid, quand il y a quelques semaines, j'avais quand même faim.
Exactement. Donc... quand il y a de l'appétit, c'est que tout va bien.
D'accord.
À ce moment-là, vous pouvez aussi être un peu irritable, trembler. Et puis parfois, il y a de la confusion. Un patient qui peut être agité. Donc tout ce qui est un symptôme qui ressemble de près ou de loin à un truc neurologique peut être une crise d'hypoglycémie. Encore faut-il, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait un facteur qui peut vous prédisposer à cette hypoglycémie.
Alors c'est quoi ce facteur? Ça doit être éventuellement diabétique, j'imagine.
Exactement. Ouais. Alors il y a plusieurs situations où vous pouvez faire de l'hypoglycémie. Le diabétique ne fera pas forcément une hypoglycémie, seulement s'il a un traitement qui peut entraîner des hypoglycémies. Et tous les traitements du diabète ne donnent pas forcément d'hypoglycémie. Donc déjà, il faut faire attention. Ensuite, l'alcool, c'est une puissante substance qui peut vous donner de l'hypoglycémie. La grossesse, c'est une période de votre vie où vous pouvez faire une hypoglycémie. En revanche, le matin au réveil, même si vous n'avez pas mangé, même si vous êtes en situation de jeûne, vous avez des mécanismes de contre-régulation qui vont faire que votre taux de sucre ne va pas baisser indéfiniment. Même chose, si vous avez une activité physique soutenue et intense, vous ne devez pas faire de crise d'hypoglycémie. Donc si jamais vous avez ces symptômes, avant de conclure à ça et de faussement vous rassurer, il est préférable de consulter.
D'accord, mais ça peut pas nous arriver parce qu'on n'a pas mangé assez la veille ou normalement, ça ne doit pas arriver ce genre de problème.
Il y a certaines causes rares d'hypoglycémie, certaines tumeurs du pancréas qui peuvent donner des hypoglycémies.
Bon là, on en a des trucs,
mais c'est des niches, ça existe. Mais néanmoins, même si vous ne mangez pas, même le jeûne un peu prolongé, alors évidemment, au bout de 4 jours...
On ne parle pas de 40 jours sans manger,
voilà,
évidemment.
Mais non, vous ne faites pas d'hypoglycémie. Vous pouvez avoir ce creux dans le ventre, vous sentir un peu pas bien, mais ce n'est pas de l'hypoglycémie. Il faut vraiment avoir un terrain particulier. C'est souvent les médicaments qu'on donne dans le diabète.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Joris. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Mon bébé est né il y a 15 jours avec une sorte de panarie au doigt, comme un petit bourrelet rouge près de l'ongle. Et son pédiatre nous dit que ce n'est pas grave, qu'il faut juste désinfecter dans un bain de Dakin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, est-ce que je peux couper les ongles de mon bébé puisqu'ils sont très longs depuis sa naissance? Merci beaucoup.
Jimmy, on a souvent des questions de jeunes parents comme ça, un petit peu inquiets. Alors cet auditeur parle d'un panarie. Un panarie, on voit tous à peu près ce que c'est. Mais chez un tout petit bébé, bain de Dakin. Bon, on va pas du tout, il n'y a pas question de contredire l'ordonnance de son pédiatre. Mais c'est une bonne solution parce qu'on évite que ça s'infecte. C'est
exactement. Le panarie du nouveau-né est plutôt plus fréquent que ce qu'on pense. C'est souvent lié à un ongle qui pousse de façon inadaptée, qui va rentrer à l'intérieur de la peau. Le panarie, c'est une infection des tissus sous-cutanés et cutanés qui vont donner cet aspect rougeâtre.
Un peu boursouflé.
Exactement, ouais. Un petit gonflement qui peut évoluer vers une collection qu'il faut parfois inciser. Et chez l'enfant, le nouveau-né... Une collection, une petite boule de pu.
D'accord.
Voilà,
okay.
c'est moins scientifique.
Disons boule de pu, hein, je pense que ça passe
pu,
aussi
ça
bien.
À tout le monde, exactement. Qui passe dans l'immense majorité des cas avec simplement des bains de Dakin qu'on doit diluer souvent à 50% avec de l'eau et qu'on doit faire plusieurs fois par jour, 7, 8, 9 fois par jour. Donc c'est plutôt fréquent.
Oui, on trempe le petit doigt du bébé comme ça.
C'est tout mignon. Ouais. Et en règle générale, en quelques jours, ça rentre dans l'ordre sans passer par la case antibiotique ou chirurgie.
D'accord, très bien. Petit bain pour le petit doigt de bébé. Mais est-ce qu'il pose une deuxième question dans sa question ? Est-ce qu'il peut couper les ongles de son bébé ? Il est
oui,
tout petit,
on peut couper les ongles d'un bébé à partir du moment où ils sont longs et que l'enfant notamment
va
s'accrocher.
Griffer, ouais.
Et il va se griffer. Donc vous prenez des ciseaux à bout rond pour les protéger. Et surtout, on essaie de couper droit. Et
comme
pas
pour nous,
en,
finalement.
Exactement.
Ouais.
Et pas un arrondi. En arrondi, ça favorise l'ongle incarné qui favorisera le panari.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Joris, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Fabrice Barlesi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Et avec vous aujourd'hui, on a décidé de faire un point complet sur l'immunothérapie. Mais avant ça, on va dire un mot sur la situation actuelle, quand même, situation actuelle compliquée avec le Covid depuis 7 mois. S'il y a des patients qui ont été plus qu'impactés, on commence à le savoir aujourd'hui par la crise sanitaire, ce sont bien ceux qui sont pris en charge pour un cancer. Quelles ont été les conséquences, on va dire, précises ?
Les conséquences, c'était d'abord une réorganisation de leur parcours avec la mise en œuvre de mesures barrières extrêmement importantes, minimiser l'entrée des visiteurs à l'intérieur de l'hôpital, tester de manière la plus importante possible les patients avant chacun de leur traitement. Et puis, bien sûr, essayer de faire en sorte que l'accès à l'hôpital ne soit fait que lorsque nécessaire, essayer de minimiser les allers-retours. À ce prix, on a pu mettre en œuvre la majorité des traitements qui étaient absolument nécessaires pour ces patients.
Et du côté du dépistage, est-ce que vous avez constaté une réelle baisse du nombre de cancers diagnostiqués durant cette période ? Puisque même si on n'a pas de diagnostic, les malades, eux, ont quand même leur tumeur qui erre dans la nature.
Alors il y a deux aspects probablement autour du dépistage. Il y a à la fois ce qui a été les recommandations des sociétés savantes qui étaient de demander aux gens de ne pas aller pour des examens qui n'étaient pas absolument indispensables et pendant la première vague qui pouvaient être décalés de quelques semaines simplement. Et puis il y a l'auto-limitation, les malades
qui avaient peur d'y aller.
Au moment du dépistage, ils ne sont pas encore malades, des sujets qui n'ont pas été faire le dépistage alors même qu'il y avait une reprise. On l'a vu dans les chiffres sur le dépistage du cancer colorectal par exemple, une très forte diminution, mais même au moment du déconfinement, on n'est pas arrivé à des chiffres qui étaient ceux d'avant et encore moins un rattrapage.
Donc il y a moins de nouveaux cancers alors qu'en réalité il n'y a aucune raison. Le nombre de cancers chaque année il ne varie pas particulièrement.
En tous les cas, on fera le point, je dirais, avec une période de suivi beaucoup plus longue, mais il est clair qu'il n'y a aucune raison malheureusement épidémiologique qu'il y ait une diminution à ce niveau-là.
Pour les patients qui sont atteints d'un cancer, est-ce qu'on peut parler de perte de chance ou de retard de prise en charge à cause de cette période un peu exceptionnelle de Covid ?
Alors, c'est encore une fois difficile de tirer des conclusions parce qu'on est encore très proche de l'épisode du printemps, qu'on ne sait pas exactement comment une potentielle deuxième vague va impacter encore plus les choses. Les chiffres qu'on avait montrent qu'il y a un petit peu moins de patients qui étaient venus en consultation. Les raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas fait et comment ça va impacter est difficile à mesurer précisément. Donc, c'est des modélisations. Et la modélisation qui a été faite par l'équipe de biostatistique de Gustave Roussy suggère qu'il pourrait y avoir in fine une augmentation du risque de décès à 5 ans de 2,5 à 5%, notamment pour les pathologies les plus agressives comme les cancers ORL ou les sarcomes, etc. Mais encore une fois, on est dans le domaine de la modélisation. Ce ne sont pas des chiffres, je dirais, dont on peut être absolument certain, ce d'autant que c'était des calculs faits avant même qu'il y ait, je dirais,
c'était
cette
réaugmentation.
C'était au
moment de la première vague, hein, c'est ça. Voilà, là, on est déjà dans une deuxième vague.
Et du coup, on
ne
sait pas quel
que ça
va être
donner,
l'impact de cette potentielle deuxième vague.
Des 2 à 5%. Est-ce qu'on peut dire que l'épidémie coronavirus, en tout cas la première vague, hein, la deuxième, on ne sait pas exactement jusqu'où on va aller, est-ce qu'on peut dire que cette épidémie, elle a carrément augmenté la mortalité par cancer ou quand même pas ? Est-ce qu'on a un chiffre là-dessus aussi ? À Gustave Roussy, vous avez fait des modélisations ?
Voilà, il y a des modélisations, encore une fois, mais on n'a pas de chiffres certains. On sait très bien que c'est au bout d'un certain temps qu'on pourra regarder quelle est la surmortalité pour l'année 2020 par rapport à une année standard. Et à l'intérieur de cette surmortalité, est-ce qu'elle a touché plus ou pas des patients qui malheureusement étaient aussi atteints de pathologies cancéreuses?
Donc là, on parle de la période de la première vague, mais nous sommes dans la deuxième vague. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura malgré tout encore des effets collatéraux sur les malades qui souffrent de cancer, puisqu'on ne parle que du Covid, mais on oublie tout le reste?
Alors, je veux dire que malheureusement, c'est probable, même si, contrairement à la première vague, aujourd'hui, tout est fait pour sanctuariser les parcours des patients en cours de diagnostic ou en cours de traitement pour leur pathologie cancéreuse, pour essayer de minimiser au maximum ce risque d'impact. Toutes les mesures ont été prises, notamment à Gustave Roussy, pour que tous les traitements puissent être faits comme ils doivent être faits. Et les recommandations aujourd'hui, c'est que les malades vivant avec une pathologie cancéreuse ne doivent pas payer une double peine à la pathologie néoplasique et au Covid.
On sait que le principal facteur de risque de mortalité ou de faire une forme de grave de Covid, c'est l'âge. Mais est-ce que les personnes qui souffrent, qui sont atteintes de cancer, font partie des personnes plus fragiles que les autres pour le Covid?
Pas tous. Aujourd'hui, quand on regarde la mortalité hospitalière, on voit qu'on a des chiffres exactement comparables à ce qu'on a ailleurs en Île-de-France ou en France. C'est à peu près 17%. Mais c'est la mortalité hospitalière. Ce qui est plus difficile à avoir comme données, c'est globalement ce qui se passe, parce que pour l'instant, ça va nécessiter d'avoir un suivi beaucoup plus prolongé. On sait que tous les malades ne sont pas, n'ont pas le même risque, et que le risque semble être plus important pour les malades qui ont des pathologies hématologiques, des pathologies du sang.
Des leucémies, par exemple, voilà, des lymphomes, des choses comme ça.
Exactement, ouais. Ce type de pathologie où là, on sait qu'il y a un risque qui semble plus important, c'est vérifié dans de multiples séries internationales. Et c'est pour ça qu'il y a des précautions particulières qui sont prises, des testings avant chaque traitement, des malades qui sont exclusivement en chambre seule, des visites limitées, etc.
Pour ces patients-là, donc, ils sont plus à risque, vous avez précisé les choses. Ça veut dire que leurs proches aussi doivent faire beaucoup plus attention. Enfin, c'est une période compliquée pour eux, même en famille, j'imagine.
Alors, le plus souvent, pour ces malades, pendant la partie vraiment la plus intense de leur traitement, ce sont des malades qui sont hospitalisés. Et il y a effectivement une limitation des visites, avec, pour ce qui est de Gustave Roussy, un seul visiteur autorisé chaque jour pour ces malades.
Professeur Barlesi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être. Une émission sans rendez-vous, vous êtes bien sûr tous les bienvenus. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Fabrice Barlesi. Vous êtes directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Et donc on a décidé aujourd'hui de décrypter pour nos auditeurs cette révolution de l'immunothérapie. Alors révolution qui a maintenant quelques années, une dizaine je crois. On va reprendre du début. D'abord, expliquez-nous simplement le principe, le grand principe de l'immunothérapie. Comment ça fonctionne?
Le principe, c'est qu'en fait, ces cellules cancéreuses sont des cellules qui sont anormales et donc elles sont reconnues par notre système immunitaire comme des cellules anormales que le système immunitaire veut détruire. Et c'est ce qui se passe chez une grande partie d'entre nous. Nous avons des cellules anormales que notre système immunitaire reconnaît et détruit, ce qui évite de développer la pathologie cancéreuse. Mais dans un certain nombre de cas, ces cellules vont arriver à développer un mécanisme qui va les rendre, entre guillemets, aveugle pour le système immunitaire. Le système immunitaire ne va pas arriver à les identifier, à les reconnaître, et il ne va pas arriver à les détruire. Les mécanismes sont extrêmement divers, mais ils ont été compris il y a relativement tôt. On a des exemples, je dirais, qui datent maintenant de plusieurs siècles, oui, autour de l'efficacité potentielle de modification du système immunitaire. Donc la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de dire je pourrais stimuler le système immunitaire pour le rendre plus actif, mais c'est des stratégies qui ont peu fonctionné. C'est le principe des vaccins. Un certain nombre est intéressant, mais c'est une stratégie qui, globalement, n'a pas fonctionné. Et la deuxième stratégie, c'est de dire, finalement, pourquoi est-ce que ces cellules arrivent à se cacher du système immunitaire? Et ça a été identifié, c'est ce qu'on appelle le PD-1 ou le CTLA-4, des checkpoints. Et les médicaments modernes sont des médicaments qui vont lever ce système de blocage pour permettre à nouveau au système immunitaire de reconnaître les cellules et les détruire. Et ça, c'est l'immunothérapie moderne, celle dont on parle le plus, qui, effectivement, a été développée il y a une dizaine d'années.
Jimmy.
Et comment est-ce qu'on a découvert ça? Que ça arrivait comment?
Alors justement, en étudiant en fait le fonctionnement du système immunitaire dans des contextes, y compris de maladies infectieuses, hein, dont on a parlé juste avant, en fait, il faut bien voir que pour que le système immunitaire fonctionne, il va s'appuyer sur une reconnaissance de la cellule anormale, un système d'accélération de la réaction immunitaire, mais pour que cette réaction immunitaire ne s'enflamme pas et qu'il n'y ait pas une réaction dans tout l'organisme, il y a aussi un système de frein. Et en fait, les cellules cancéreuses vont utiliser ce système de frein. Et l'idée, c'est de lever en fait, ce système de frein pour permettre à nouveau au système immunitaire d'agir, alors qu'auparavant, on était plutôt sur essayer d'augmenter l'accélération.
Alors, l'une des premières indications, donc il y a à peu près une dizaine d'années, ça a été le mélanome, un cancer de la peau très agressif, sur lequel les résultats ont été spectaculaires et surtout, je crois, évalués chez vous, à Gustave Roussy.
Effectivement, à Gustave Roussy, le professeur Caroline Robert a participé au développement initial et puis à toutes les phases de développement de l'immunothérapie dans les mélanomes, avec d'abord l'immunothérapie dans les stades avancés de la maladie, les stades métastatiques. Mais aujourd'hui, ce sont des traitements qu'on utilise, y compris dans des formes précoces, où il a été montré qu'après une chirurgie pour un mélanome, et dans certains cas, effectuer une immunothérapie...
C'est le traitement même de première intention, quoi, c'est ça. Ouais.
Et pouvait même améliorer la guérison de formes très précoces de la maladie.
Et l'immunothérapie, ça marche pour quel type de cancer ?
Alors, c'est compliqué à dire. Aujourd'hui, en tous les cas, on s'aperçoit que ça marche dans beaucoup de maladies qui sont la conséquence d'une carcinogénèse chimique, par exemple le tabac, d'une carcinogénèse physique, les ultraviolets. Quand ces carcinogènes vont avoir entraîné beaucoup d'altérations moléculaires sur la cellule cancéreuse. Et donc, le nombre d'altérations étant élevé, la stimulation du système immunitaire est élevée et quand on l'aide à bien marcher, du coup, il fonctionne bien. Dans les maladies où il y a moins d'anomalies, par exemple, une grande partie des cancers du sein, le traitement, aujourd'hui, fonctionne bien avec les molécules dont on dispose. Bien sûr, on essaye de comprendre pourquoi et on essaye de l'optimiser. Donc aujourd'hui, les efforts portent sur identifier tous ces mécanismes qui font que le système immunitaire va être spontanément un petit peu plus sollicité et que faciliter son action a de fortes chances de fonctionner avec les molécules actuelles. Et en parallèle, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et comment on va pouvoir, dans les situations où ça ne fonctionne pas, mettre en œuvre des stratégies qui vont permettre, en combinant la chimiothérapie, en combinant une autre immunothérapie, en combinant la radiothérapie, d'avoir une meilleure efficacité.
Donc ça veut dire par exemple des cancers de la peau. Vous avez dit si c'est le rayonnement, quand les cancers sont causés par, donc, par exemple, les rayonnements solaires ou par, donc des toxiques, le poumon, j'imagine, ça doit marcher. Le digestif aussi, c'est...
Alors, dans les tumeurs digestives, ça fonctionne notamment dans un groupe de tumeurs qu'on appelle MSI élevé. C'est-à-dire, en fait, ce sont des tumeurs où les mécanismes de réparation de l'ADN sont déficients et donc le nombre d'altérations va en s'accumulant. Et comme il y a beaucoup d'altérations, encore une fois, il va y avoir une stimulation élevée du système immunitaire.
Et donc concrètement, ça a sauvé des vies, des malades qui seraient morts il y a 10 ans, et bien aujourd'hui sont peut-être sauvés. Vous avez des exemples comme ça de patients qui sont vivants grâce à l'immunothérapie ?
C'est exactement ce qui fait aujourd'hui l'attrait et je dirais presque quelque part la magie de l'immunothérapie. Dans des maladies comme le mélanome dont on parlait ou les cancers du poumon, aujourd'hui, les résultats ont été présentés récemment à l'ESMO. On voit qu'on a dans un certain nombre de cas qui ont une expression élevée d'un certain marqueur, 30% de malades qui sont vivants à 5 ans avec un cancer du poumon métastatique, alors que pour avoir une idée...
Donc cancer du poumon très avancé.
Avancé, alors que jusqu'à présent, le taux de survie, même à un an, était aux alentours de 50%. Donc on voit les progrès qui ont été faits.
Vous en avez dans votre patientèle des exemples patients
J'ai un cas, effectivement, que je raconte toujours parce que c'est un des premiers malades qu'on a mis dans des essais cliniques d'immunothérapie. Alors à l'époque, il a reçu une combinaison de chimiothérapie et d'immunothérapie en 2008.
Ouais.
Et c'est un malade qui a dû arrêter l'immunothérapie au
cancer
bout de 5
ans
parce qu'il a fait un cancer du poumon métastatique. Il a fait un effet secondaire d'immunothérapie, on va en reparler, et il a été obligé d'arrêter le traitement. Et malgré ce, il est toujours vivant, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on espère aujourd'hui...
De 2008 à 2020, il est là.
C'est ce reset du système immunitaire. C'est-à-dire finalement, on va aider le système immunitaire à reprendre le dessus sur la maladie et finalement, l'organisme lui-même va être capable de se défendre contre la maladie de manière prolongée.
L'immunothérapie, juste rapidement, c'est que pour les adultes ou pour les cancers des enfants aussi, on peut
l'utiliser ? Alors, il y a des développements également dans les tumeurs pédiatriques, mais bien entendu, le système immunitaire des enfants est évidemment complètement différent. C'est pour ça que ça nécessite des recherches qui sont spéciales, mais c'est aussi une voie, bien entendu, pour ce qui est de l'immunothérapie standard dont on a parlé là. Et puis, il y a tout le développement d'une immunothérapie un peu sur mesure, dont on reparlera probablement.
Professeur Barlesi, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Fabrice Barlesi. Vous êtes directeur médical et de la recherche clinique à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Alors, grâce à vous cet après-midi, on fait un point très complet, mais très précis et très pédagogique sur l'immunothérapie. Donc, cette nouvelle thérapeutique finalement en cancérologie qui a révolutionné un peu les choses depuis 10 ans. Alors, on a parlé des résultats un petit peu avec vous juste avant, mais on a parlé également de quels cancers étaient concernés, évidemment. Mais en pratique, comment on traite ? C'est-à-dire, bon, imaginons un cancer du poumon, donc vous parliez cet exemple-là tout à l'heure. On me le donne sous quelle forme, ce médicament ? C'est des comprimés, des piqûres, des rayons, je ne sais pas.
Alors, l'immunothérapie, telle qu'on le dit, sont des anticorps monoclonaux, et donc ça se fait essentiellement par voie intraveineuse.
Donc des piqûres, des injections.
Voilà, des injections qui sont en général relativement brèves, 60 à 30 minutes. Mais on développe aujourd'hui des formes où on va injecter directement dans la tumeur certaines immunothérapies avec des résultats qui semblent encourageants. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être plus demain. Mmh.
Jimmy ?
Et ça, on le fait pendant combien de temps et à quel rythme ?
Alors, ça dépend. En général, c'est des injections qui sont à peu près toutes les 3 semaines, parfois 4 semaines, mais ce sont des médicaments qui ont une demi-vie, une durée de vie dans l'organisme qui est assez longue. Et donc, il y a des schémas d'administration qui pourraient s'allonger avec le temps. Il faut qu'on le valide, mais on pourrait imaginer des injections qui auraient lieu tous les 2 mois, voire même peut-être tous les 3 mois dans le futur.
On parlait des effets secondaires, on voulait en parler. On connaît tous, hein, enfin, on a en tête en tout cas ces effets secondaires bien connus, des chimiothérapies qui font peur à beaucoup de monde. On voit les cheveux qui tombent, etc. On sait que le corps est très affaibli, des patients qui ont des nausées, des troubles digestifs. On a dit au départ, avec l'immunothérapie, vous n'aurez pas tout ça. Alors, je crois que c'est vrai, mais qu'il y a quand même d'autres effets.
Alors, ce qui est clair, c'est que globalement, les études montrent toutes que l'immunothérapie est mieux tolérée que la chimiothérapie et qu'elle a un retentissement sur la qualité de vie des malades qui est inférieur. C'est démontré globalement. Maintenant, ça, il y a quand même des effets secondaires. Dans la majorité des cas, ces effets secondaires sont peu graves. Il y a une petite proportion de cas où il peut y avoir des effets secondaires graves qui sont des effets secondaires qu'on appelle immuno-induits. Pour faire simple, comme on l'a dit tout à l'heure, l'immunothérapie va lever un frein qui existe naturellement dans l'organisme. Et en levant ce frein, on peut permettre à notre propre système immunitaire de toucher n'importe quelle partie de notre organisme. Ça peut être la peau, ça peut être les poumons en donnant de la toux, de l'essoufflement, ça peut être le tube digestif en donnant de la diarrhée, etc. etc.
Mais ce n'est pas parcours de santé non plus, hein, c'est non. ça. C'est parce que souvent on fait versus chimio, versus immuno, mais ce n'est pas non plus rien du tout, pas d'effet secondaire. Hein.
Ouais. Il y a des patients qui n'en ont aucun, et heureusement. Mais il peut se passer n'importe quoi, et c'est la raison pour laquelle il faut informer les patients et les aider à s'informer.
Néanmoins, vous constatez que les patients ont une meilleure qualité de vie sous immunothérapie, ça veut dire que certains continuent de travailler, par exemple, ou de mener une activité physique presque normale, on va dire, tout en comprenant évidemment que ce n'est pas non plus comme si on prenait de l'homéopathie.
L'effet secondaire qui est le plus fréquemment rapporté, quelle que soit l'immunothérapie, quelle que soit la tumeur, c'est le plus souvent un certain degré de fatigue. Mm-hmm. Mais globalement, une grande partie de nos malades ont une vie strictement normale. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour que les malades, malgré la maladie et malgré les traitements, aient la vie la plus normale possible. Mais effectivement, pour bien connaître ces effets secondaires, ça nécessite d'arriver à les informer sur tout ce qui peut se passer. L'idée étant de prévenir le mieux possible des formes d'effets secondaires graves.
Concrètement, quand on sait que le cancer donc, est une indication à l'immunothérapie, prenons par exemple du cancer du poumon encore une fois, ça va fonctionner sur quelle proportion de patients ? Parce que je crois que ça ne marche quand même pas sur tous.
Alors aujourd'hui, le bénéfice de long terme, c'est-à-dire à plusieurs années, et il est retrouvé dans les cancers du poumon, mais à peu près en proportion égale dans toutes les maladies, c'est en gros 20 à 25% des patients qui vont avoir un bénéfice de très long terme. Donc
ils sont très répondeurs, ça marche très bien chez 20 à 30% des patients.
20 à 30% des patients dont la maladie va être vraiment contrôlée très longtemps. Il y a une proportion de malades qui va répondre à l'immunothérapie et malheureusement dont la maladie va réévoluer, qui va résister secondairement à l'immunothérapie. Et tous les efforts menés actuellement sont pour comprendre pourquoi.
Et justement, est-ce qu'on commence à comprendre pourquoi certains vont résister ? Est-ce qu'on a identifié des mécanismes en vue, dans un très long terme ou moyen terme, de proposer quelque chose ?
Alors, en tous les cas, la première chose, c'est dans certains cas, le système immunitaire n'est pas du tout activé, ce qu'on appelle les tumeurs froides. En fait, il n'y a pas du tout de cellules du système immunitaire qui sont présentes. Et comme elles ne sont pas présentes, même si on essaye de faciliter leur action, forcément, ça ne peut pas marcher. La deuxième chose, c'est que parfois, elles sont exclues de la tumeur. Elles vont rester en périphérie. C'est ce qu'on appelle, elles sont en exclusion. Et donc, du coup, comme elles ne sont pas à l'intérieur de la tumeur et au contact des cellules cancéreuses, elles ont moins la possibilité de marcher. Donc, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte qu'elles rentrent à l'intérieur de la tumeur avec un certain nombre de techniques et parfois avec l'idée peut-être de mettre le traitement directement à l'intérieur de la tumeur avec des traitements intratumoraux.
Professeur Barlesi, pour ces patients donc, qui sont résistants à l'immunothérapie, est-ce que ça veut dire qu'on l'oublie du coup ? Alors, on l'essaye, ça ne marche pas, on l'oublie définitivement ou est-ce qu'on peut adapter les choses, en tester une autre d'immunothérapie, augmenter les doses, je ne sais pas, ou l'associer encore une fois, cette immunothérapie à quelque chose de plus classique, hein, de la chimio ou des rayons par exemple ?
C'est tout l'objet des stratégies thérapeutiques innovantes et de leur développement qui se fait donc en particulier beaucoup à Gustave Roussy, où on a énormément d'essais qui adressent cette question, essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, quelles stratégies on peut mettre en œuvre. Donc ça peut être en combinant des immunothérapies, ça peut être en associant des nouveaux médicaments qui vont permettre de lutter contre ces mécanismes de résistance, ça peut être des stratégies où on va aller un petit peu plus sur mesure, essayer de prendre la tumeur des patients, essayer de mettre en œuvre, de fabriquer des cellules immunitaires spécifiquement capables de reconnaître cette tumeur et de la réinjecter au patient. C'est le futur de l'immunothérapie.
C'est des CAR-T-cells, c'est de ça que vous parlez. Alors on va essayer d'expliquer un tout petit peu ce que c'est que c'est de l'immunothérapie sur mesure, encore plus. Donc les CAR-T-cells sont des cellules particulières. Est-ce que vous nous expliquez alors le plus simplement possible ce futur-là aussi de l'immunothérapie?
L'immunothérapie dont on a parlé jusqu'à présent, vous l'avez compris, l'idée c'est que finalement on compte sur le fait que le système immunitaire a été activé et on va faciliter son action. Mais lorsque le système immunitaire n'a pas été activé, on peut récupérer des cellules du système immunitaire du patient, finalement l'éduquer en quelque sorte à reconnaître la tumeur du patient et réinjecter ces cellules à l'intérieur de l'organisme en se disant qu'elles vont aller pour le coup puisqu'elles ont été spécifiquement designées pour ça.
On les dresse, attaquer, on dresse les cellules immunitaires du patient.
On les éduque, plus qu'on ne les dresse.
Mais du coup, comme c'est un traitement sur mesure, c'est difficile de se dire que ça marcherait à grande échelle. Si on prend tous les malades du cancer, c'est un lot très hétérogène.
Bien sûr, et aujourd'hui, c'est pour ça que ça ne s'adresse pas à toutes les situations. C'est en cours de développement. Il y a aujourd'hui des médicaments qui sont enregistrés, notamment dans le contexte de pathologies hématologiques qu'on appelle les maladies d'Hodgkin, en tout cas certaines d'entre elles. Petit à petit, le développement se fait, mais encore une fois, aujourd'hui, il faut arriver à comprendre et surtout à essayer de prédire les situations dans lesquelles ça va fonctionner ou pas. Donc, c'est en même temps le développement d'un médicament et le développement d'un biomarqueur avec.
Et puis, c'est un médicament à chaque fois pour un patient. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre mes cellules immunitaires et les donner à Jimmy, même si on avait la même maladie. Hein, c'est
exactement,
ça.
On ne peut pas. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce sont vraiment des choses qui sont faites à façon.
Et ça doit coûter extrêmement cher, ça. Non,
alors, ça coûte extrêmement cher, mais c'est aussi un bénéfice.
De quel ordre on est, dans quelle échelle à peu près de prix?
Alors, ça dépend des molécules, ça dépend des indications, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est encore une fois des traitements qui sont en cours de développement avec aussi leurs propres effets secondaires. Et donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est extrêmement important de développer une information telle qu'on l'a fait avec NetCancer, par exemple, pour que les malades aient l'information la plus précise, la plus factuelle, la plus expertisée possible.
Merci beaucoup, professeur Barlesi, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce qu'est en pratique l'immunothérapie aujourd'hui dans la prise en charge des cancers. Beaucoup de progrès donc en perspective encore, on l'a compris, de quoi avoir de l'espoir pour de nombreux malades. Merci.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être à vos côtés cet après-midi. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les bobos du quotidien. Aujourd'hui, on va vous parler du rhume. Pas besoin de vous faire un dessin. Vous savez ce que c'est, j'imagine, et comment ça s'attrape. Par contre, peut-être pas. Un virus est toujours en cause finalement. Est-ce qu'on ne peut pas peut-être plutôt attraper froid, comme on l'entend parfois? Jimmy va tout nous dire. Et vous, savez-vous comment ça se soigne également un rhume si vous avez le nez qui coule? Est-ce que ça sert à quelque chose de se soigner d'ailleurs? Eh bien, on va voir ce que vous en pensez et on va commencer par écouter le micro-trottoir de Benjamin Lévesque.
Quand on a le nez qui coule, on a un peu de fièvre, c'est quand on attrape froid en fait.
C'est le nez qui coule, la gorge qui gratte.
Un rhume, il me semble que c'est pas, on pense que c'est un virus, etc. Et en fait, je crois que c'est juste des symptômes d'une autre maladie.
Un rhume, je pense que c'est une bactérie, je pense pas que ce soit un virus.
Les rhumes, c'est quand on attrape froid. Alors, il paraît qu'on attrape pas froid, que ça n'existe pas.
Bah, ça m'arrive souvent en hiver. Dès qu'il fait froid.
Aussi bien l'hiver, mais ça peut être aussi un rhume de foin au moment du printemps.
Je fais de l'automédication tout de suite, alors je sais pas si c'est vraiment pertinent, mais je sais que dès que j'ai la gorge qui me gratte, je commence à prendre des Doliprane.
Moi en fait, quand j'ai un rhume, je vais prendre un Efferalgan histoire de calmer.
Pour me débarrasser du rhume, en général, je bois un peu d'eau chaude avec du miel et du citron, et un peu de gingembre aussi.
Un rhume, ça dure 15 jours.
Moi, dès que j'ai un rhume, c'est une catastrophe, ça dure au moins 3 semaines et ça descend en pharyngite, laryngite.
Alors Jimmy, le rhume, c'est vrai qu'on ne parle que du Covid en ce moment et c'est très important, c'est normal, mais le rhume, cette saison également. Alors j'imagine qu'en ce moment, y compris pour vous les médecins, c'est peut-être d'ailleurs difficile un peu parce que tout le monde a le nez qui coule et tout ça, les gens viennent vous voir, ils ont toujours peur que ce soit le Covid, parfois ce n'est qu'un rhume. C'est quoi les symptômes du rhume précisément pour nous aider un petit peu à y voir plus clair et à différencier ça du Covid peut-être?
Alors il faut
justement
rappeler déjà aux personnes que lorsque vous avez le Covid, vous pouvez être asymptomatique. C'est le cas entre 30 et 50% des gens qui sont positifs sur une PCR n'ont jamais eu aucun symptôme. Pour autant, ils sont quand même contagieux. Et vous êtes même contagieux avant même l'apparition du moindre symptôme dans les 3 jours qui précèdent. Donc attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de symptômes que vous n'avez pas de Covid. En ce qui concerne le rhume, la rhinopharyngite, peu importe comment on appelle ça, eh bien, c'est le nez qui coule avec ou sans fièvre, avec ou sans maux de gorge. Et donc, c'est très compliqué de faire la part des choses entre du Covid et un rhume classique, même si le Covid, lorsqu'il s'exprime, souvent donne de la température au-delà de 38, des maux de tête et une toux qui est souvent au premier plan avec, comme une grippe, vous avez des courbatures, je pense que vous vous souvenez.
Oui, je me souviens très bien, des douleurs partout, de la tête aux pieds, des cheveux aux orteils, moi je dis même.
On est cassé, on est épuisé.
Complètement.
Et puis dans le rhume, finalement, vous avez des petites courbatures, ça va, vous avez le nez qui coule, vous toussotez, vous vous en sortez pas trop mal, car avec le temps, on s'immunise contre les rhinopharyngites, on en fait de moins en moins.
C'est que les petits ont tout le temps le nez qui coule et
exactement.
Nous moins quand même.
Et donc en grandissant, les symptômes du rhume sont assez banal. Et attention.
Chez un homme, ça peut être très dur le rhume.
C'est vrai que les hommes, c'est vrai. Oh, oui, vous avez raison. Les hommes sont vraiment fragiles, je le reconnais.
Ouais, ouais. Moi, je trouve que le rhume, c'est rude, hein, surtout au masculin. Hein,
c'est vrai. Ils en font des pataquès de 7 ans à 77 ans, ce sont les mêmes. Ils ne sont pas très courageux, il faut le reconnaître.
C'est ça. Alors, Jimmy, un rhume, est-ce que c'est toujours à cause d'un virus? On sait que d'ailleurs, le Covid, c'est la famille des coronavirus qui cause, pour certains des coronavirus, des rhumes. Mais est-ce qu'on peut attraper froid simplement parce que la température est basse et on attrape froid, on a un rhume? Ça,
non,
ça existe ou pas?
Le coup de froid n'existe pas. Le froid peut favoriser certaines infections. Vous avez au niveau des bronches, des cils. Ces cils servent à drainer des corps étrangers comme des virus, des bactéries. En temps normal, ces cils bronchiques sont très lisses, très souples, comme les cils que vous avez au niveau de la paupière. Sauf qu'avec le froid, ces cils deviennent très rigides, comme un peigne. Et lorsqu'un virus arrive, il est emprisonné dans les voies respiratoires, propice à l'infection, et le corps ne peut pas s'en débarrasser. Donc le froid peut favoriser des infections. Et puis en période d'hiver, on est à la maison, à l'intérieur, proche les uns des autres, on est en collectivité, et ça favorise la transmission des virus. Donc le froid ne pose pas de problème, c'est une infection virale. Et attention, si vous attrapez une rhinopharyngite quelconque, ça veut dire que vous êtes relâché dans les gestes barrières et que vous pouvez attraper le Covid. Donc il faut se protéger.
Comment ça se traite un rhume? Est-ce que ça se traite d'ailleurs?
Parce non,
que
ça
je crois
pas.
Qu'on dit ça 7 jours, 8 jours.
Un peu
là,
de paracétamol. Voilà. Vous lavez le nez en particulier chez les enfants car c'est source d'otite. Chez les plus grands,
faut
ça peut
que ça
donner
dégénère, alors.
Exactement,
d'accord.
Des sinusites. Un rhume traité, c'est une semaine. Un rhume non traité, c'est une semaine d'évolution.
D'accord.
Prenez votre mal en patience, sauf si vous avez un doute. Il faut vous faire tester pour savoir si ce n'est pas du Covid.
Juste un mot rapide sur les remèdes de grand-mère, les grogs avec alcohol ou sans alcool, thé chaud, miel.
Si ça vous fait plaisir, allez-y.
Ouais.
Du miel, du thé, du citron, tant
ouais,
que ça passe.
Pas. C'est en train de guérir, mais ça va soulager. C'est
voilà,
ça.
Exactement. C'est pour soulager ces messieurs qui souffrent.
Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci, monsieur, pardon, pour cette précision, pour ces précisions, cette clarté habituelle.
Je vous en prie,
merci.
Allez-y. Continuez, Mélanie
merci,
Gomez.
Jimmy.
Très bien, ça me va.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Jimmy Mohamed est toujours à mes côtés pour accueillir avec moi, donc aujourd'hui, comme tous les jours, Catherine Blanc. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on va aborder la fameuse question que beaucoup de femmes se posent. Est-ce qu'en couple, les hommes se masturbent, même lorsqu'ils sont déjà en couple, du coup?
Alors ça, c'est une question amusante. C'est-à-dire que c'est encore une fois toujours appuyé sur l'idée que les hommes ont des pulsions... toujours irrépressible, que donc leur sexualité faite avec leur femme leur permet d'en assouvir une partie et que donc il y aurait une sorte de montée en puissance.
Il y a un quota max, quoi.
Au quotidien.
Une fois qu'il est atteint, il n'y a plus besoin. Quoi,
voilà, et que donc il faudrait vraiment se masturber pour essayer d'éjaculer et d'enlever cette pression pulsionnelle masculine. C'est évidemment une idée reçue. D'ailleurs, les femmes se masturbent aussi bien que.
Oh là là, attention, les hommes vont être surpris, là. Arrêtez, Catherine.
Voilà, donc les femmes aussi se masturbent, et pas toujours pour combler un manque de sexualité, juste par curiosité, parce que leur corps leur appartient. À ce titre, les hommes ont leur corps qui leur appartient. Bien sûr qu'on pourrait se poser la question, pourquoi se masturbe-t-il? Pourquoi c'est peut-être pour certains obsessionnels ou addictifs? Évidemment, ça c'est une autre question, et bien sûr que ça pose la question du malaise de l'homme en question ou de la femme en question, mais sinon on a le droit de se faire du bien.
Ben oui.
Oui, mais est-ce qu'il faut le faire en cachette? Alors, je ne vous parle pas de côté exhibitionniste, hein, mais est-ce qu'il faut le cacher à sa compagne pour éviter justement peut-être de la vexer? Parce que vous l'avez dit, souvent, c'est de croire qu'on va compenser un manquement par la masturbation.
Bah, en fait, c'est propre. Moi, je n'ai pas de réponse à donner à ça précise parce que c'est propre à chacun. Je crois qu'on peut avoir envie.
C'est pas forcément caché. C'est chacun a son jardin secret, quoi. C'est
voilà,
tout bon.
Ça peut se faire cacher parce qu'on n'a pas envie de le partager avec l'autre. Parce que par définition, le fantasme de cette masturbation ne tient que s'il y a personne. Par définition, d'autres mettront leur masturbation dans le cadre de la relation et d'ailleurs feront violence au partenaire qui y assiste alors qu'il n'a pas le sentiment, le souhait d'y assister. Et puis d'autres, ben oui, c'est, on sait grosso modo qu'on peut s'adonner à cela, mais on n'en fait pas un commentaire puisque ça n'appartient qu'à celui qui le vit.
Et les femmes de découvrir, on va dire, par exemple, doivent pas se sentir humiliées ou je ne sais quoi. C'est deux choses différentes, c'est deux sexualités différentes.
Absolument, mais c'est vrai qu'elles se vivent souvent très fortement humiliées. Elles ont le sentiment que de toute façon, pour se masturber, ça s'est appuyé sur quelqu'un d'autre qu'elles.
Pas forcément, d'ailleurs.
Et que ce n'est pas forcément le cas. Que c'est donc une envie d'ailleurs qui trouve maladroitement un espace, mais que tôt ou tard, ça ira vers de l'ailleurs. Donc tout ça, ce sont en fait des...
Ça aussi, c'est faux, on est d'accord. Il n'y a aucune obligation.
Ça peut l'être, mais ça, on ne peut pas du tout réduire la masturbation masculine à cela. Et là, ça rend surtout compte à 100% de l'inquiétude féminine et donc de son idée de valeur personnelle.
À partir de quand la masturbation peut poser problème dans un couple, qu'elle soit finalement venant des hommes ou venant des femmes ?
La masturbation, à partir du moment, j'aime bien cette expression qui dit la masturbation rend sourd, évidemment qu'elle ne rend pas sourd, mais elle rend sourd à l'autre. À partir du moment où où s'adonner à l'onanisme est bien fait que je ne suis plus en capacité d'être en lien avec l'autre, ou que je ne suis plus disponible parce que s'il faut que je me masturbe une première fois, une deuxième fois, une troisième fois,
oui, là,
au bureau, aux toilettes, etc.
Complète,
ouais. Là, on est dans une addiction et là, ça pose un véritable problème. Et puis, avec un sentiment, certains hommes témoigne d'un sentiment tout d'un coup de chute d'énergie.
La masturbation au bureau, ça peut être déjà un bon gradient. Il faut savoir qu'on est dans l'addiction, je pense. Enfin, je ne sais pas.
Oui, hein, mais voilà.
Sans jugement, bien sûr.
Oui,
mais...
à mon avis, Catherine vous dira oui, je pense.
Oui. Mais... C'est-à-dire que si on ne peut pas passer un moment c'est tranquille, si on ne peut pas se concentrer sur quelque chose, si on ne peut pas s'adonner à des relations avec les autres et qu'on est obligé à certains moments d'être renvoyé à soi, à son désir, à son excitation ou à un besoin urgent d'évacuer une tension que l'on attribue à la sexualité, oui, on est dans quelque chose qui est déséquilibré, bien évidemment.
Néanmoins, on peut comprendre que certaines femmes puissent être un peu blessées ou vexées si jamais elles apprennent que leur homme se masturbe en regardant par exemple de la pornographie ou en pensant à quelqu'un d'autre. Elles se disent, malgré tout, je suis quand même remplacée dans l'objet de son fantasme. Et donc, on peut comprendre un peu qu'elles ne sont pas contentes.
Bien sûr, on peut tout à fait le comprendre, ce d'autant plus s'il n'y a pas de sexualité ou peu de sexualité entre eux. Donc, il y a vraiment le sentiment de ne pas avoir de rôle à jouer là-dedans. Maintenant, est-ce qu'une femme doit toujours être malheureuse de ne pas être le pompier ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle peut plutôt s'interroger sur « que se passe-t-il pour mon homme ?» plutôt que « qu'est-ce que... il me vole, parce que est-ce que la fonction de l'épouse est d'être l'infirmière ou le pompier de l'insécurité ou de la fragilité de l'autre ? Je ne le crois pas.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr demain. Tout de suite, place à Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui Mélanie, vous connaissez notre sens de la perfection avec Stéphane Bern. Nous sommes des perfectionnistes et nous leur rendons hommage aujourd'hui à travers trois personnages.
Léonard de Vinci, un malade de perfectionnisme. Nadia Comăneci, la gymnaste roumaine. Et vous avez choisi un autre perfectionniste.
Celui qui, même s'il est décédé aujourd'hui, il gouverne encore nos vies, c'est Steve Jobs. Le perfectionniste à qui l'on doit l'iPhone et tous ces miracles de technologie qui font notre quotidien.
Je vous souhaite une excellente émission, messieurs. Merci beaucoup. On sera à l'écoute, bien évidemment. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.